Merci Thourien, merci à Frédéric de m'avoir proposé d'intervenir dans ce séminaire. Donc moi je vais repasser chez le peuple, si j'ose dire, puisque Thourien, tu as parlé des francisés, francophiles et bon, d'une certaine élite. Donc je vais repasser en fait en faisant une focalisation sur le système éducatif marocain. Alors je me suis rendu compte après coup à quel point le titre envisagé était ambitieux et grandiose, puisque vraiment il exige de faire un très grand écart entre des questions liées au système éducatif marocain, au très grand chantier de réforme existant officiellement depuis 1999, mais je pense depuis les 50 dernières années, voire depuis la fin du protectorat, et les questions liées à la francophonie. Donc j'avais prévu de commencer par montrer une carte, peut-être pour familiariser les personnes qui ne connaissent pas le Maroc, en sachant que je voulais choisir une carte qui soit dans laquelle les villes soient visibles, donc Tanger, Tétouan, Kenitra, Rabat, Casa, Marrakech, Agadir. Et en fait le sud n'est pas marqué, donc vous avez tout un territoire, le Sahara occidental, qui a un statut qui reste encore très problématique sur le plan international. Bon, je pense que inconsciemment, je suis restée peut-être un petit peu traumatisée par un petit bug entre guillemets qui nous est arrivé les premières années de ma présence à Marrakech, alors que j'étais arrivée en 2007 comme attachée de coopération pour le français. Je vous en dis quelques mots. Il se trouve que l'ambassade de France avait conçu des documents publicitaires pour informer sur les instituts et alliances franco-marocaines présents au Maroc et pour informer sur les médiathèques. Et en fait, dans la carte du Maroc retenue, la personne qui a choisi la carte a trouvé très judicieux de s'arrêter à Agadir. Donc on a commencé la distribution de ces quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Et puis quand ils sont arrivés à Marrakech et quand j'ai commencé à les basculer vers le sud, j'ai reçu un coup de fil absolument incendiaire d'un ponte de l'académie. Je pense que les Sahraouis sont beaucoup plus présents à partir de Marrakech et vers le sud. Donc, c'est une carte qui n'est pas tout à fait standard. Voilà, donc je vais évoquer donc le système éducatif marocain qui est en pleine mutation depuis la fin de l'indépendance et qui, comme vous allez le voir à travers quelques chiffres et quelques schémas que je vais vous montrer, est en train de combler en quelques dizaines d'années un écart absolument colossal que d'autres pays ont mis plusieurs siècles à combler, avec un chantier de réforme particulièrement important et dense depuis 1999. Et je vais poser quelques éléments de réflexion par rapport à la coopération, quelles actions de coopération possibles en soutien à la langue française et au système éducatif. Donc, comme vous l'avez compris à travers la présentation de Frédéric, il ne s'agit pas du tout d'un projet de recherche, il s'agit d'un témoignage de 4 années de présence en tant qu'attaché de coopération au Maroc, donc vraiment une présence sur le terrain que j'essaye depuis de problématiser. Donc, dans une première partie, je vais vous présenter les défis et les difficultés d'un secteur éducatif qui est en pleine crise, mais qui, en même temps, dans lequel on observe une dynamique absolument extraordinaire. Je pense que je n'ai jamais rencontré autant d'enseignants, autant d'encadrants, autant de directeurs d'établissements scolaires qui avaient autant foi en leur mission qu'au Maroc ces dernières 4 années, où vraiment j'ai rencontré de vrais acteurs d'un système éducatif dans lequel on avait l'impression qu'on pouvait agir chacun à son niveau, aussi bien les enseignants, les associations de parents d'élèves, les proviseurs, etc., dans un contexte en très grande difficulté. Un des premiers défis qui s'est posé au secteur éducatif tout de suite après le protectorat, ça a été la généralisation très massive de l'offre éducative, puisque on est passé en 50 ans, de 1955-56, on est passé de 500 et quelques établissements scolaires et 365 000 et quelques élèves scolarisés dans le primaire et dans le secondaire, à 50 ans plus tard, 8 600 établissements scolaires environ et 5 800 000 élèves environ. Donc, il y a vraiment eu une explosion absolument extraordinaire qui n'avait pas du tout été, qui n'avait sans doute pas été préparée, anticipée par les autorités post-coloniales, puisqu'il a fallu, on a été confronté dans le cadre de cette généralisation à toute une série de problèmes liés à des problèmes à une infrastructure insuffisante, voire inexistante, à des capacités d'accueil, là encore, insuffisantes, à un nombre de candidats complètement disproportionné par rapport à ce à quoi les autorités éducatives s'étaient sans doute imaginées. L'insuffisance également d'anticipation des publics scolaires spécifiques auxquels on avait affaire, par exemple les publics présents dans les zones rurales et défavorisées qui constituent la très grosse majorité des publics scolarisés au Maroc, le handicap linguistique auquel était confrontée une très grosse minorité berbérophone dans le pays, juste pour vous montrer une carte représentant les trois zones amazirophones du pays. Le dernier recensement de 2004 parle de 40% de la population marocaine qui possède une de ces trois langues berbères comme langue maternelle, donc avec le Tachelhit, je ne sais pas comment prononcer, le Tamazirt au centre et le Rifin dans le nord. Et donc, on a ouvert les portes de ces établissements scolaires sans aucune préparation réelle préalable à l'accueil, notamment de l'ensemble de ces élèves qui ne possédaient pas l'arabe comme langue maternelle. Deuxième défi auquel les établissements scolaires ou le secteur éducatif a été confronté, tout de suite après le protectorat, ça a été la volonté des autorités politiques d'arabiser un secteur éducatif qui était très massivement francophone jusque-là. Donc, il y a eu, je vais y passer très rapidement, il y a eu plusieurs tentatives d'arabiser le système éducatif, avec une première tentative en 1957, donc quelques petites années après la fin du protectorat, complètement ratée, puisqu'on a voulu commencer par arabiser le cours préparatoire, et on s'est rendu compte qu'on était dans l'improvisation la plus totale. Le ministère décide d'arrêter les dégâts très vite et de lancer tout un chantier de réflexion en faisant appel à des experts. On a organisé des colloques, des séminaires scientifiques, des études diverses et variées, et on a lancé ce qui constitue la première vague d'arabisation du primaire en 1962, qui devait être suivie de l'arabisation du secondaire. Cette arabisation du primaire s'est déroulée entre 1962 et 1966 et s'est interrompue en 1966 avec un constat d'échec de la part du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui a déclaré au cours d'une conférence de presse en avril 1966. Je cite Grand Guillaume, donc le ministre déclare que le niveau de l'enseignement est compromis par une arabisation hâtive, par la généralisation de l'enseignement et par la marocanisation, et il suggère de revenir à l'enseignement en langue française, au moins pour les matières scientifiques. Tollé notamment de la part du parti Istiklal, qui était pour une arabisation complète et entière du système éducatif. Quelques années plus tard, avec là encore un contexte politique tout à fait particulier, dans les années 70, il y a eu la marche verte, il y a eu peut-être un rapprochement plus important du Maroc par rapport aux pays arabes, une volonté de marquer une arabisation peut-être plus importante dans un certain nombre de secteurs, y compris au niveau du secteur éducatif. Et donc là, on lance la vague d'arabisation qui va commencer par le primaire et qui va se terminer à la fin des années 80 par l'arabisation de l'ensemble du secondaire et par l'arrivée des premiers bacheliers complètement arabisés en 1989. 90 à l'université. Le problème, c'est que ce chantier d'arabisation s'est arrêté net à l'université, puisque seules les facultés des sciences humaines et sociales ont été arabisées. Tout ce qui est discipline scientifique, technique, médicale, enseignement privé, grandes écoles, etc., est entièrement francisé. Donc ça, c'est un deuxième point, un deuxième facteur qui peut expliquer une partie de la très grosse crise que traverse le système éducatif marocain, dans lequel les élèves sont confrontés majoritairement à une langue arabe qui est la langue d'enseignement et de scolarisation pendant toute leur scolarité, et ils arrivent à l'université en étant obligés d'utiliser une langue quasi étrangère pour les usages qu'on leur impose, en tout cas. Troisième problème très important qu'on est en train de résoudre lentement mais sûrement au Maroc, c'est le faible taux de scolarisation. Qui couvre en même temps un faible taux de scolarisation à la base et une déscolarisation ou un abandon scolaire très important. Je vais vous montrer quelques graphiques concernant les quatre niveaux de scolarisation, le préscolaire, c'est-à-dire ce qui correspond à la maternelle avant 6 ans, le primaire, le collège et le lycée. Donc là, nous avons un premier graphique qui nous montre l'évolution du taux de scolarisation chez les 4 à 6 ans entre 2000 et 2006-2007, où on a un pourcentage qui reste quand même assez bas, de l'ordre de 59,7% d'enfants scolarisés dans des établissements préscolaires, en sachant que ce que vous avez en bas à droite, en sachant que la très grosse majorité des établissements qui scolarisent les élèves de 4 à 6 ans sont des kutab, c'est-à-dire des écoles coraniques traditionnelles. Seule une petite minorité, 20%, est scolarisée en 2006-2007 dans des établissements modernes. En sachant également qu'il y a des disparités très importantes, là vous avez des moyennes nationales, il y a des disparités très importantes au niveau du genre, les filles sont nettement moins scolarisées que les garçons, surtout dans les zones rurales, et des disparités géographiques, puisque là encore, dans les zones rurales, les enfants, à tous les niveaux d'ailleurs, sont beaucoup moins scolarisés que dans les zones urbaines, compte tenu de l'éloignement des établissements scolaires des maisons, notamment dans les zones où les habitations sont très éparpillées dans des régions très hostiles géographiquement. Idem pour ce qui est du taux de scolarisation en primaire. Là, on atteint peut-être des pourcentages beaucoup plus importants, puisque en 2005-2006, nous avons une moyenne nationale de 95% d'enfants scolarisés dans le primaire. C'est peut-être le secteur où il y a le moins de problèmes et dans lequel il y a eu le plus de consensus et le plus de volonté au niveau de l'ensemble des régions de scolariser les enfants de 6 à 11 ans. Là encore, avec des disparités importantes au niveau de la scolarisation par sexe et par zone géographique, les filles étant moins scolarisées que les garçons et les ruraux, d'une manière générale, étant moins scolarisés que les citadins. On retrouve des taux de scolarisation beaucoup plus faibles au collège et au lycée. Il y a un taux d'abandon scolaire très important entre la fin du primaire et le début du collège, et un taux encore plus important entre la fin du collège et le début du lycée. Et donc, c'est un des éléments, parmi tous ceux que je présente, qui ont justifié ce gros chantier de réforme éducative menée à partir de 1999. Donc un travail important sur l'abandon scolaire avec des facteurs externes et des facteurs internes. Donc j'ai évoqué certains facteurs externes, l'éloignement des établissements scolaires, la pauvreté, des problèmes familiaux, le mariage précoce des filles, l'analphabétisme des parents, le travail infantile, et puis une attitude négative de la part des parents des zones rurales notamment, qui ne comprennent pas à quoi ça sert d'envoyer les enfants à l'école au lieu de les envoyer dans les champs. Des facteurs internes également qui expliquent ce faible taux de scolarisation et qui expliquent des abandons scolaires très importants. Tout d'abord, la barrière linguistique très importante. Donc barrière linguistique aussi bien chez les enfants berbérophones qui arrivent dans un système dans lequel la langue de scolarisation est l'arabe, que les enfants arabophones dont la langue maternelle est la darija ou l'arabe dialectal marocain et qui arrivent, mais comme l'ensemble des élèves du monde arabe, qui sont confrontés à une nouvelle langue, l'arabe standard ou scolaire. Donc cet élément-là masque aussi des difficultés d'ordre didactique et méthodologique et des problèmes au niveau de la conception du matériel didactique, que ce soit en français ou en arabe d'ailleurs, qui peut paraître un petit peu inadapté. D'autres problèmes peuvent expliquer aussi cet abandon scolaire, des relations enseignants, élèves et parents compliquées, un abandon scolaire très important, notamment dans des zones rurales très compliqué d'accès et très difficile, avec un absentéisme très important, aussi bien des élèves que des enseignants. Moi, il m'est arrivé de visiter des écoles rurales très isolées, dans lesquelles, enfin, une école rurale en particulier dont je vous parle, dans laquelle le directeur avait noté sur un papier qu'il a accroché sur le mur de son bureau des statistiques de fréquentation mensuel. Et donc, il avait le papier de l'année précédente. Moi, je suis allée lui rendre visite au printemps. Et donc, il avait noté pour le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, on était proche des 80% de scolarisation en septembre. Et puis, au fur et à mesure que le temps se dégrade, eh bien, le taux de scolarisation diminue. Et au fur et à mesure que la neige s'installe dans ces régions-là, eh bien, il y avait des mois où il y avait 0% ou 5% de fréquentation sur l'ensemble des classes. D'autres éléments peuvent expliquer aussi ce que certains appellent sinistrose du système éducatif. Tout d'abord, un taux d'analphabétisme qui reste important au Maroc. Les dernières statistiques font état de plus de 40% des plus de 10 ans touchés par un analphabétisme important. Les mauvaises performances dans les évaluations internationales, vous savez maintenant qu'on a imposé des normes au système éducatif et maintenant qu'on entend parler de PISA beaucoup en France ou d'autres évaluations internationales. Le Maroc s'y est mis comme un certain nombre d'autres pays et les résultats sont désastreux. Moi, ça a été une de mes premières discussions lorsque je suis arrivée au Maroc en 2007, où j'avais des partenaires éducatifs extrêmement traumatisés, premièrement par les derniers résultats des analyses, donc le PIRLS qui teste la lecture des enfants de 4e année de primaire. Donc le Maroc était classé 44e sur 45 pays. Le TIMSS qui teste les compétences en sciences des élèves, donc en maths 31e sur 36 pays et en sciences 34e sur 36. Et en plus, mes interlocuteurs, quand ils m'ont parlé de ces résultats, ils étaient doublement vexés par les résultats eux-mêmes et par le fait qu'ils étaient classés après l'Algérie. Donc vraiment, ça a été quelque chose, c'est pour Afifa, un petit clin d'œil très important. Et enfin, un taux de réussite au bac qui reste faible malgré des avancées importantes. À la dernière session du bac, on a eu au Maroc 55,31% de taux de réussite aux deux sessions, ce qui est là, on a battu des records, mais ça reste quand même très faible. Le système est sur une pente montante, mais il y a des problèmes qui reste colossaux. Un vaste chantier de réforme a été entamé à la fin des années 90 grâce notamment à une alternance politique qui s'est accompagnée à l'époque d'un bilan de 50 ans de post-colonisation. Le roi a annoncé en 1999 ce qui allait constituer le démarrage de ce qu'on a appelé la décennie de l'éducation, c'est-à-dire le lancement d'un vaste chantier de réforme dans le cadre de la Charte nationale d'éducation et de formation, dont les objectifs étaient très clairs: réconcilier la nation avec son école et insuffler une nouvelle dynamique au système éducatif. Donc cette charte, qui est un document absolument passionnant pour toute personne qui s'intéresse au secteur éducatif, présente les fondements, les finalités majeures du système, les droits et les devoirs de l'ensemble des acteurs, mais aussi présente tous les éléments d'une modernisation très impressionnante du secteur éducatif, avec la création des académies régionales d'éducation et de formation, plutôt la modernisation des académies existantes jusque-là, avec une amélioration de la gouvernance, une autonomisation et une décentralisation très importante et particulièrement impressionnante. Cette charte préconise tous azimuts d'adapter le système éducatif à son environnement économique, d'adopter les nouvelles technologies d'information et de communication, de moderniser les ressources humaines, de réviser et d'adapter les programmes scolaires, les méthodes, les manuels, les emplois du temps, etc. Mais préconiser également de diversifier les modes de construction et les normes de construction des équipements, d'encourager le secteur privé d'enseignement et de formation, le secteur privé qui représente environ 5% du secteur éducatif. Selon les ressources, j'ai vu des taux variant entre 5 et 8%. Bref, c'est un chantier colossal qui va être lancé en 1999 avec une multiplicité de domaines d'action. Un bilan va être fait à mi-parcours dans les années 2004-2005 et là, on va se rendre compte que, très clairement, on est très loin des objectifs affichés. On est loin des objectifs affichés parce que le programme était beaucoup trop ambitieux. Mais en même temps, énormément de choses ont été faites au cours de ces quelques années. Ce constat de, je ne vais pas dire d'échec, mais de difficulté d'atteindre les objectifs, a amené la mise en place d'un deuxième chantier dans le cadre d'un programme intitulé le plan d'urgence pour l'éducation et la formation, qui a été annoncé par le roi pour 2009-2012. Et il s'agit très clairement de sauver la réforme, de sauver la charte et d'essayer de mobiliser les énergies vers quelques axes fondamentaux, en sachant que, là encore, le panel de travail est très large. Par exemple, à Marrakech, région dans laquelle j'étais affectée, mes collègues rattachés aux différentes délégations provinciales, c'est-à-dire inspections académiques, ont fait pendant des mois la tournée de l'ensemble des établissements scolaires, du plus petit au plus grand, pour prendre des photos de tous les locaux, pour essayer de faire un état des lieux et envisager les infrastructures, la rénovation des infrastructures appropriées dans le cadre du programme d'urgence. Alors, tout ceci se fait avec des partenariats. Avec des partenariats très divers dans le cadre du monde éducatif. Bon, bien sûr, quand on est attaché de coopération pour l'ambassade de France au Maroc, bon, on est très content de travailler pour la France. Mais il n'y a pas que la France, il y a toute une série d'autres partenaires étrangers. Il y a une longue tradition de partenariats étrangers au Maroc. Donc ça va de l'Agence canadienne de coopération à l'Agence espagnole de coopération internationale, en passant par le Arab Gulf Fund for United Nations Development, le Japon, les Pays-Bas, l'UNESCO, le USAID, et puis évidemment la France, qui est un partenaire privilégié, comme la langue française est une langue privilégiée au Maroc, n'est-ce pas ? Alors moi, je vais faire un focus sur la coopération linguistique et éducative française au Maroc, en sachant que les Français ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, bien sûr, mais qui travaillent sur d'autres niveaux. Par exemple, j'ai vu des internats ou des établissements scolaires construits sur des fonds japonais, sur des fonds italiens. La France ne construit pas d'écoles ni d'internats, mais elle travaille sur d'autres orientations en partenariat avec enfin, en fonction des demandes qui sont faites et des besoins. Donc très rapidement, la coopération linguistique et éducative au Maroc se fait dans le cadre d'instituts français ou de centres culturels français, d'alliances franco-marocaines et d'établissements scolaires français. Donc il y en a une trentaine au Maroc, avec une multiplicité d'actions tous azimuts, culturelles, éducatives, linguistiques. La cible privilégiée des actions de coopération étant évidemment les enseignants de français. Les enseignants de français, en sachant que personnellement, dans toutes les actions que j'ai pu mettre en place dans le cadre de cette coopération, il m'est arrivé de temps en temps de voir des profs d'arabe, des profs d'anglais et même quelques rares profs de culture islamique ou de religion qui sont venus suivre les formations qu'on mettait en place par manque de formation continue mise en place au niveau académique. Voilà donc ce qui nous mène à quelques questions concernant la langue française au Maroc, donc qui était langue officielle sous le protectorat entre 1912 et 1956, et qui ensuite a perdu de son statut privilégié, donc bien sûr sur le plan officiel après la fin du protectorat, mais qui est restée quand même très présente avec les quelques milliers de coopérants qui sont restés dans les établissements scolaires et dans les universités pendant les années qui ont suivi le protectorat, et avec l'arabisation. En fait, l'arabisation a marqué la fin de la domination de la langue française dans le système éducatif scolaire, pas universitaire, puisque à l'université, dans les matières scientifiques, le français est encore langue dominante. Dans le système scolaire, le français est la première langue étrangère, mais elle n'est nommée à aucun moment, ni dans le plan d'urgence, ni dans la charte, aussi bien dans la charte que dans le plan d'urgence. Quand il s'agit de parler de l'ouverture aux langues, eh bien, ce sont les langues étrangères qui sont nommées et pas le français précisément. Donc, c'est la première langue étrangère qui est enseignée. À partir du primaire, en sachant que nous avons des textes officiels qui préconisent donc un début de l'enseignement du français dans les écoles publiques primaires, mais ces préconisations ne sont pas suivies dans l'ensemble des établissements. Là encore, il m'est arrivé dans mes contacts avec les établissements scolaires, notamment des écoles primaires, dans les régions berbérophones et dans des régions plutôt assez pauvres et assez défavorisées, dans lesquelles les enseignants avaient 50 à 60 élèves en classe, eh bien, les directeurs me disaient « mais on a autre chose à faire que de nous imposer en plus le français ». C'était vécu comme un point important, et je pense qu'un nombre non négligeable de petits élèves de certaines régions à problème arrivaient au collège sans avoir jamais été initiés, d'une manière sérieuse en tout cas, au français. Alors, curieusement, le français est présent dans le primaire et au collège plutôt en tant que langue étrangère, avec des manuels qui font penser aux manuels d'anglais langue étrangère ou d'espagnol langue étrangère qu'on peut avoir en France. Seulement, au lycée, on change de cap. Au lycée, on a vraiment l'impression que les vieux réflexes de francophile, francophone pur et dur, je suis peut-être un peu excessive en disant ça, demeurent, puisque là, on passe à l'œuvre intégrale. C'est-à-dire que les élèves passent carrément à un autre monde, puisqu'ils sont confrontés à Voltaire, à Hugo, à Khayr ed-Din. Là, on lisait dans un des extraits proposés par Touria, je vois difficilement certains élèves de certains établissements scolaires en difficulté affronter Khayr ed-Din. Donc, voilà. Donc, même au niveau du système éducatif, je pense qu'il y a un problème de statut et un problème de perception du statut que doit avoir la langue française une bonne fois pour toutes au niveau du système éducatif. Et d'ailleurs, ça se retrouve au niveau des appellations, au niveau des dénominations standards, entre guillemets. Bon, pour une langue étrangère, pour le français en tout cas, on parle du français langue étrangère ou bien du français langue seconde ou du français langue de scolarisation. Alors, français langue étrangère, non. Le français n'est pas langue étrangère au Maroc, compte tenu de l'histoire très récente. Le français n'est pas langue seconde non plus. On sent que ça chiffonne quand même d'utiliser cette appellation langue seconde, qui est aussi qui est ambiguë, bon, sur le plan un peu identitaire. Donc on a trouvé une solution qui est celle de langue privilégiée. Le français est officiellement langue privilégiée au Maroc en attendant de résoudre, je pense, le problème de la relation des Marocains avec l'ensemble de leur langue en présence. J'en dirai peut-être un petit mot tout à l'heure. Voilà, donc pour en revenir au français, ça reste quand même une langue de travail et de communication professionnelle, parce que malgré les problèmes rencontrés dans certaines zones en difficulté, dans les grandes villes, on est très francophone et très francophile, et la langue française peut constituer un handicap pour l'accès au marché du travail. Un très grand nombre d'annonces d'emploi exigent le français comme langue de communication professionnelle. C'est aussi une langue qui est perçue ou qui est citée comme étant une langue d'ouverture à l'Occident et une langue d'accès à la modernité. Bon, là encore, il peut bien sûr y avoir débat. Voilà, donc le français au Maroc, c'est aussi le français dans le cadre de la coopération éducative, la langue du réseau français le plus dense à l'étranger. C'est au Maroc que la France a son réseau de coopération le plus dense. Alors moi, je vais évoquer très rapidement les quelques orientations que j'ai menées dans le cadre de mon action de mes actions de coopération éducative et linguistique au niveau de l'Académie de Marrakech, donc qui est une académie qui est globalement assez pauvre, assez rurale, assez défavorisée. Alors nous avons une première vitrine qui est la ville de Marrakech, donc la ville des VIP, etc. Mais moi, je ne travaillais pas avec ces gens-là. Mes partenaires, c'était les autres. Alors, deuxième vitrine, qui est celle des Saouira aussi, mais qui mène une action vraiment d'envergure au niveau éducatif. Donc, je vais évoquer rapidement trois pistes de travail donc, avec les partenaires éducatifs. Les formations d'enseignants, d'une part, donc d'enseignants de français essentiellement, les actions auprès des élèves et la culture scientifique et technique. Alors, juste un petit point, là, c'est vraiment un témoignage tout à fait personnel. J'ai été rattachée à un institut français, l'Institut français de Marrakech. Je gérais des fonds du ministère des Affaires étrangères, mais dans un cadre institutionnel très défini, puisqu'il y a des conventions de partenariat entre les deux gouvernements français et marocain et entre les différents établissements, j'avais une grande marge de manœuvre et une grande latitude pour mener les différentes actions en fonction de ce que je sentais ou de ce que j'arrivais à tirer des besoins exprimés par mes partenaires de l'époque. Donc, au niveau formation, alors juste bon, un petit tableau, je ne sais pas s'il est très lisible. Donc, le public prioritaire, c'était les enseignants de français. Donc là, vous avez un tableau donnant pour 2009-2010 les effectifs des enseignants de français en primaire, collège et lycée dans l'ensemble des académies régionales. Donc, j'ai surligné Marrakech. Donc, Marrakech, le public auquel étaient destinées l'ensemble des actions mises en place. Donc, c'était 10 620 professeurs du primaire, un petit peu plus maintenant, 690 professeurs de collège et 348 professeurs de lycée. Alors, évidemment, à chaque secteur, des problèmes et des attentes spécifiques. Alors, je vais commencer par quelques exemples d'actions dans le secteur préscolaire, donc la maternelle. Alors, il se trouve que depuis le plan d'urgence et depuis 2009, ce secteur est annoncé comme étant le gros secteur prioritaire de l'action éducative, avec un objectif de généralisation à 90% de la scolarisation des enfants de 4 à 6 ans. Il se trouve que dans l'Académie de Marrakech, il y a une très longue tradition de scolarisation des enfants de 4 à 6 ans. Et moi, par exemple, quand je suis allée, tout de suite après mon arrivée, quand je suis allée rencontrer les différents délégués provinciaux, c'est-à-dire les inspecteurs d'académie dans les différentes villes avec lesquelles, qui faisaient partie du territoire académique. Donc, un des premiers que j'ai rencontré, c'était celui des Saouira. mais qui m'a dit, mais de toute façon, vous nous parlez de préscolaire, mais nous, c'est pas parce que le gouvernement a décrété en je ne sais quelle année qu'il ne fallait pas scolariser les 4 à 6 ans que nous ne les avons pas scolarisés. Ça fait très longtemps que nous faisons un travail avec les associations de parents d'élèves, avec les établissements scolaires, avec les formateurs, etc. Et c'est vrai que c'est une région dans laquelle le travail sur l'enseignement préscolaire est assez précurseur. Maintenant, un institut français ayant une possibilité d'action de formation, évidemment, on va calquer les actions de formation sur les besoins les plus urgents et les plus criants. Et donc, un certain nombre d'actions que j'ai mises en place étaient destinées à la formation des instituteurs et institutrices qui allaient changer de statut, qui sont supposés changer de statut dans les années à venir et qui sont supposés renforcer la scolarisation des enfants de 4 à 6 ans. Pour le primaire, les actions de formation des enseignants de français sont des actions qui viennent soutenir les projets de lecture, les projets d'écriture, les projets de travail sur le compte, puisque parallèlement au manuel de français, le compte est un des supports les plus intéressants à utiliser en classe de langue. Il se trouve que pendant les années où j'étais présente, j'ai pu développer un projet grâce à des fonds versés par la région Midi-Pyrénées. La région Midi-Pyrénées est jumelée avec la région de Marrakech-Tensiftelhaus. Seulement, au niveau régional, les relations étaient un petit peu interrompues dans les années 2006-2007, alors qu'il y avait des chantiers de grande ampleur qui avaient été lancés, notamment par rapport à l'eau, par rapport à toutes les zones défavorisées. Donc, on a profité malgré tout de l'existence de cette région Midi-Pyrénées qui avait envie de mettre des fonds et qui avait envie de continuer à s'investir dans cette région de Marrakech pour lancer un projet autour du livre et du conte, du livre et de la lecture dans les zones rurales et défavorisées. Un projet qui nous a permis aussi bien de lancer des formations intensives auprès des professeurs de primaire de zones défavorisées, donc le Haouz, qui est une province parmi les plus défavorisées, sinon la plus défavorisée du Maroc, la Médina de Marrakech, dans laquelle il y a des établissements qui sont en très grande difficulté. Donc c'est ainsi que nous avons mis en place un projet assez original dans le cadre des projets de coopération, celui de collecter des contes traditionnels, donc des contes du patrimoine oral et traditionnel marocain, en partant du principe que s'il fallait avoir recours à des contes dans les classes, autant remplacer dans la mesure du possible, de temps en temps, Blanche-Neige et Cendrillon, par des contes de la tradition orale marocaine, de manière à ce qu'il puisse y avoir une réelle identification et peut-être une approche affective plus intéressante et plus approfondie par les élèves et par les enseignants. Donc il y a une série de formations qui ont permis aux enseignants de français en primaire de collecter des contes, de les réécrire, de les travailler avec des conteurs et des formateurs français et marocains. On a profité de l'occasion, enfin des fonds de la région Midi-Pyrénées, pour éditer des exemplaires bilingues, de manière à permettre aux professeurs de français et aux professeurs d'arabe de travailler en parallèle sur ces contes, qui ont été édités en 14 000 exemplaires et distribués gratuitement dans l'ensemble des écoles primaires de l'académie. Sur ce fonds, on a aussi constitué une bibliothèque itinérante, étant donné que beaucoup d'établissements sont très isolés, qu'il y a un manque flagrant d'équipements et de ressources. Donc, un millier d'ouvrages ont été achetés, rassemblés dans des caisses en bois thématiques et donc proposés auprès aux établissements scolaires. Voilà un petit exemple d'action parmi d'autres. Au niveau du primaire et du collège, trois types d'actions ont été menées. Alors évidemment, il y avait des besoins en termes de formation fondamentale, lire au primaire, lire au collège, traiter l'erreur, évaluer, etc. Mais j'ai aussi donc profité de la marge de manœuvre que j'avais pour proposer des formations centrées sur des pratiques pédagogiques innovantes. Ça pouvait être, par exemple, l'utilisation du livre électronique en classe, le théâtre, le cinéma, etc. Comme soutien également aux enseignants, les professeurs, notamment des régions isolées, venaient, comment dire, avec une sorte d'appel au secours pour qu'on puisse aider avec quelques moyens financiers ou humains à, comment dire, à diversifier et rendre attrayant un enseignement particulièrement problématique. Au niveau du lycée, le gros problème, c'est l'œuvre intégrale. Donc, une très grande partie des formations proposées ciblaient les difficultés linguistiques, méthodologiques, mais aussi culturelles par rapport à l'œuvre intégrale. J'ai aussi mis en place un certain nombre d'actions qui permettaient d'ouvrir la classe et les lycéens à l'extérieur. Par exemple, des actions valorisant l'adaptation cinématographique d'œuvres littéraires. Marrakech est devenue, au fil des temps, ces toutes dernières années, la ville du cinéma. Il y a une école de cinéma qui a ouvert il y a quelques années, dirigée par un ancien directeur d'Institut français. Des formations de cinéma qui se développent à la faculté des lettres et sciences humaines. On a réussi à monter des partenariats intéressants entre la faculté des lettres, les établissements scolaires et l'Institut français. Je vais passer très vite. Un certain nombre d'actions ont été menées aussi directement auprès des élèves, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le pouvait, on profitait des infrastructures présentes à l'Institut français pour présenter des concours, pour proposer des expositions, des animations diverses et variées, pour amener des artistes, des chanteurs, des comédiens, des musiciens dans les établissements scolaires. Et c'était intéressant et enrichissant dans les deux sens. Est-ce que j'ai le temps d'évoquer un exemple d'action transversale ? Donc je l'évoque pour faire plaisir à Frédéric qui s'est beaucoup investi dans l'organisation d'un colloque en 2010 dans le cadre du centre Jacques Perc, donc centre CNRS présent à Rabat. Donc un colloque sur les migrations, identité et modernité au Maghreb. Il se trouve que ce colloque a eu lieu à Essaouira et que nous en avons profité au niveau de la coopération linguistique et éducative pour mener un certain nombre d'actions dans les établissements scolaires d'Essaouira. C'était un petit peu compliqué parce que c'était un colloque, même si l'intitulé officiel ne l'indique pas, sur essentiellement les migrations juives au Maghreb. Donc nous avions beaucoup d'historiens des migrations juives. Nous avions des cinéastes qui ont tourné des films très intéressants de témoignages des histoires de vie tout à fait intéressantes. Et donc, on a réussi à mettre en place des actions, des rencontres des lycéens avec des historiens, des projections, débats divers et variés, etc. Et dernière chose que je voudrais évoquer, j'ai peut-être abusé, entre guillemets, de mon statut d'universitaire pour développer un créneau qui était un créneau un petit peu confidentiel jusque-là, celui de la culture scientifique et technique. Il se trouve qu'à l'université de Marrakech, il y a des universitaires, des équipes de recherche extrêmement pointues dans un certain nombre de domaines, par exemple des paléontologues, des astrophysiciens, des géologues, des spécialistes de l'eau, des jardins, etc. Et des universitaires très francophones, bien sûr, et qui étaient vraiment en demande de soutien pas tant financier ni logistique que plutôt symbolique, notamment les universitaires qui étaient dans des créneaux un petit peu problématiques sur le plan idéologique. Par exemple, je me souviens d'une journée d'un colloque international en paléontologie. Il y a une équipe vraiment très pointue à Marrakech. Donc, colloque international auquel étaient invités des conférenciers et des intervenants d'un nombre impressionnant de pays. Conférence d'ouverture effectuée par le responsable de l'équipe de paléontologie. Donc, il nous a parlé pendant 45 minutes de la richesse du patrimoine marocain. Et une des premières questions à la fin de son intervention, ça a été « Monsieur le conférencier, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Donc, c'était très intéressant. Et moi, je les observais, ces universitaires, qui était, à chaque fois qu'il y avait un mouvement de grande ampleur comme ça, qui était dans des stratégies, qui va parler avant, qui va répondre à telle question, parce que de toute façon, on savait que la question allait être posée. Et c'est vrai qu'une structure telle qu'un institut français pouvait peut-être constituer, dans certains cas, un refuge, puisque certains débats ne pouvaient malheureusement avoir lieu que là. C'était aussi un soutien réciproque qu'on s'apportait aussi bien nous en tant que présence française sur place que les universitaires pour le français langue scientifique. Le français étant encore enseigné à l'université massivement comme langue scientifique, eh bien, ça pouvait être intéressant de prévoir des actions de coopération entre l'université, l'académie et l'Institut français pour promouvoir le français langue des sciences. Alors, juste dernière chose par rapport à ce point-là, lorsque j'avais la possibilité de promouvoir aussi l'arabe langue des sciences, je le faisais. Et j'ai eu l'occasion de le faire au cours des tout derniers mois de ma présence là-bas, puisqu'on a pu bénéficier de la présence d'une magnifique exposition bilingue qui intitulée « Quand les sciences parlent arabe », qui avait été faite conjointement par le ministère des Affaires étrangères européennes, le Centre culturel français du Caire et un centre, le Centre de culture scientifique et technique d'Orléans. Et donc, on a fait venir cette exposition qui ne pouvait être présentée que dans les locaux de l'Institut français de Marrakech pour des problèmes de logistique, tout simplement. Et donc là, ça a été le déferlement d'élèves, de stagiaires, d'enseignants stagiaires et d'enseignants pour cette exposition. Et beaucoup de lycéens marocains ont découvert à cette occasion que l'arabe pouvait aussi être langue des sciences, puisqu'on leur parlait de toute une série de traités ayant existé dans le temps dans des disciplines mathématiques très, très pointues. Voilà, bon, je vais peut-être passer rapidement sur le bilan. Pour en revenir à la question de la francophonie, moi je pense que, bon, là j'ai présenté quelques actions pour le soutien du français, de la langue et de la culture française, mais aussi pour le soutien du système éducatif marocain, puisque la langue française continue à être une langue majeure. Dans le secteur, je pense que malgré tout, rien n'est acquis. Aussi bien pour la francophonie, alors petite parenthèse, moi qui suis libanaise d'origine et qui ai vu comment la francophonie a dégringolé en une vingtaine d'années au Liban, bon, c'est vrai qu'il y a eu la guerre, mais bon, je me dis que rien n'est acquis au niveau de la francophonie. Je pense que le statut de cette langue aussi ne peut être appréhendé qu'à travers la complexité très importante du paysage linguistique marocain que Touria et Frédéric ont évoqué tout à l'heure. Donc, nous avons un certain nombre de langues maternelles, donc la darija et les langues amazighes qui n'ont pas d'existence officielle, mais autour desquelles il y a des enjeux identitaires et affectifs très forts et tout à fait naturels. Nous avons des langues officielles, donc l'arabe, alors, que je ne sais plus comment appeler, l'arabe standard, l'arabe littéraire, l'arabe littéral, l'arabe scolaire, l'arabe classique, etc. Il y a toute une série de débats et on peut discuter pendant des heures pour savoir comment on appellerait cet arabe-là. Je ne commente pas. L'amazigh aussi, parce que, bon, l'amazigh a été déclarée deuxième langue officielle par la dernière constitution en juillet dernier. Il se trouve que moi, qui étais présente dans une région très fortement amazirophone, j'ai rencontré des professeurs et des directeurs d'établissements scolaires horripilés par cette tentative d'harmonisation et de standardisation et d'imposition d'une variété d'amazigh au détriment de toutes les autres. Et on me disait, mais ils n'ont pas appris, ils n'ont pas compris l'expérience de l'arabe qu'on est venu nous imposer, donc en plus l'arabe doublement envahisseur, et on refait pareil avec l'amazigh en venant nous imposer une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Voilà. En tout cas, des langues officielles que les usagers ne semblent pas s'être pleinement appropriées. Et sans vouloir faire de provocation, je te rejoins, Touria, je pense que si le français est langue privilégiée, c'est peut-être aussi et surtout parce qu'il échappe à tous ces tourments et à cette relation passionnelle qui existe par rapport peut-être aux langues nationales. En tout cas, par rapport au français et par rapport au système éducatif en particulier, moi, je pense qu'il y a un élément très important aussi qui va se passer dans les 20 prochaines années. Enfin, c'est tout à fait personnel. personnel. Bon, bientôt, les derniers enseignants qui ont été formés par les coopérants vont partir à la retraite. Et ce sont des locuteurs qui sont en général très francophiles et qui ont une relation particulièrement fantasmée avec la langue française. Et d'ici 10 ou 20 ans, on n'aura plus comme enseignants que des enseignants qui sortent du même moule que leurs élèves et qui auront peut-être un discours peut-être plus légitime en termes d'exigences linguistiques, méthodologiques, didactiques, parce qu'ils auront été tous issus de ce moule-là. Et je pense que le fait que le modèle de référence soit l'école marocaine avec les enseignants marocains peut apporter une modification importante au niveau des discours et au niveau des attentes par rapport à la langue française et par rapport à des actions de coopération telles que j'ai pu évoquer. Voilà, merci pour votre attention.